VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Abidjan, midi à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Burkina Faso, cérémonie de désarmement du régiment de sécurité présidentielle RSP, aujourd'hui à Ouagadougou. Initiative qui devrait mettre la touche finale à la dissolution de cette unité, ONI depuis 20 ans et fer de lance du putsch avorté du 17 septembre. Parallèlement à cet acte symbolique, les autorités judiciaires, justice militaire d'une part et commission d'enquête d'autre part, s'activent pour faire toute la lumière sur le coup d'État manqué. Selon l'AFP, il y a eu des dizaines d'arrestations, notamment parmi les officiers du RSP. Deux leaders politiques ont également été interpellés hier soir et placés en garde à vue. Léonce Kone du CDP de l'ex-président Blaise Compaoré et Herman Nyameogo, président de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement. Toujours au Burkina Faso, le coup d'État avorté du général Gilbert Diendéré aura coûté aux finances publiques burkinabé au moins 50 milliards de francs CFA. Et son impact négatif s'est fait sentir sur tous les secteurs socio-économiques du pays, avec un accent plus aigu sur les secteurs commerce et petits porteurs de l'informel, nous dit de Ouagadougou notre correspondant Zoumana Renogo.
Les finances publiques ont ressenti le contre-coup et plus durement encore, il l'est pour les ménages et le secteur informel. Écoutons Rasmane Zongo, il est réparateur de cyclomoteurs.
Depuis ça a commencé là, on ne travaillait pas. Moi, j'ai un mécanicien. Je vends des pièces détachées et puis j'ai fait ma mécanique et puis j'ai nourri ma famille. L'État même a dit qu'il a perdu 50 milliards. Moi-même, je ne peux pas avoir 1 million même, mais moi aussi, j'ai perdu beaucoup de choses. Même nourriture, la main des femmes, c'était dur avec moi. Parce qu'on ne travaillait pas. Chaque jour, je travaille, je nourris ma famille. Quand j'ai le problème de la vie, comme ça, je ne peux pas travailler. Coup d'État là, moi, je suis contre. Je suis contre celui qui a fait le coup d'État là. Je veux que notre pays là, c'est devenu bonne démocratie correctement.
Les finances publiques ont perdu au moins 50 milliards de francs CFA. Du côté du syndicat des commerçants, son président, LH. Inoussa Kabore estime au double le préjudice subi dans le secteur commerce.
C'est nous qu'on veut évaluer, il y a des centaines de milliards, puisque le gouvernement s'est basé sur les impôts. Les impôts, c'est le commerçant, c'est le privé qui paie. Donc, ça veut dire, nous, on a subi plus que le gouvernement. Imaginez les produits périssables. Il y a au moins 4 remorques qui sont revenus avec les bétails, qui devraient aller à Côte d'Ivoire pour le faire des tabasquis. N'ont pas pu franchir. Une remorque estimée 200 moutons, je prends comme ça, ça peut être plus 100 000 par 200, ça fait combien? Toi, tu avais emprunté un crédit à la banque pour faire cette affaire et ce revenu. C'est une perte. Il y a des pertes en vie humaine. Il y a un commerçant, un débrouillé qu'on a abattu froidement comme ça. Une balle. Vraiment, quand on repense, ça fait très mal.
Mais tous les ressorts ne sont pas cassés, assure l'économiste Seydou Ezerogou, directeur exécutif de l'Institut Free Afrique. Le Burkina peut, dit-il, tirer un grand bien du mal qu'a été le coup d'État.
Les choses qu'il y a à faire, c'est la consolidation de la question sécuritaire. Traiter les conséquences de la dissolution du RSP. S'il y a des gens qui sont dans la nature, il faut les retrouver. S'il y a des caches d'armes, s'il y a des munitions qui sont en vadrouille, s'il y a des armes qui sont en circulation, il faut vraiment faire le maximum. La deuxième question qui est une grande priorité, c'est celle de la justice. Il y a eu des éléments qui sont de l'ordre de la flagrance délit en ce qui concerne le putsch. Il faut qu'on aille sans précipitation, mais il faut qu'on aille assez rapidement pour installer le processus, sécuriser le processus. Parce qu'en réalité, si vous ne faites pas la justice, vous ne permettez pas à l'insécurité de s'arrêter. La justice ferait que l'ensemble des éléments qui pourraient perturber la stabilité sociale aujourd'hui et demain pourraient être retirés. Et la justice permettrait également de déchirer, comme quelqu'un l'a dit, le voile de l'impunité. Et ça, c'est très, très important.
Zoumana Ouonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Au Niger, la situation sécuritaire dans l'extrême sud-est du pays reste préoccupante après les récents attentats de Boko Haram de la région de Diffa. Que fait le gouvernement de Niamey pour contrer la menace posée par les militants islamistes nigérians? La réponse de la ministre nigérienne des Affaires étrangères, Kan Achatou Boulama, à notre collègue Abdulaziz Adili Toro, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.
C'est vrai, nous sommes en guerre. Et cette guerre, nous la menons ensemble avec des pays du bassin du lac Tchad, c'est-à-dire le Niger, le Tchad, le Nigeria et le Cameroun. Et depuis un certain temps, la force multinationale est opérationnelle et nous sommes déterminés à combattre Boko Haram et nous sommes déterminés à le radier de la planète pour que nos populations qui vivent dans le bassin de la Sahara retrouvent la paix et la quiétude. Et nous louons la détermination et l'engagement et le sacrifice de nos forces de défense et de sécurité qui sont à pied d'œuvre nuit et jour pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans la région de Diffa.
La ministre nigérienne des Affaires étrangères, Kan Achatou Boulama.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre Boko Haram toujours. 11 soldats tchadiens ont été tués aujourd'hui dans une attaque d'insurgés de Boko Haram contre une position de l'armée tchadienne près de la frontière avec le Nigeria. Les hommes de Boko Haram ont attaqué la position de nos forces à Kaigan Ngouboua, à 2 km de la frontière avec le Nigeria, dans la zone du lac Tchad, a indiqué à l'AFP une source sécuritaire tchadienne sous couvert d'anonymat. Cette attaque surprise a fait 11 morts dans les rangs de l'armée tchadienne et 13 blessés, a ajouté cette source. Parmi les soldats tués figure un officier supérieur, un lieutenant-colonel. Dans les combats, 17 combattants de Boko Haram ont été tués par les soldats tchadiens, a poursuivi cette source. Les assaillants ont été repoussés et l'armée tchadienne continue le ratissage de toute la zone. Au Congo-Brazzaville, deux leaders d'opposition soulignent ce matin leur refus d'accepter le référendum sur un projet de nouvelle constitution prévu le 25 octobre par le gouvernement. La nouvelle charte fondamentale permettrait au président Denis Sassou Nguesso, âgé de 72 ans, de se représenter en 2016. Pour Pascal Sati Mabiala, premier secrétaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, premier parti d'opposition au Congo-Brazzaville, le président Sassou se trompe d'époque en essayant de se maintenir au pouvoir par le biais du référendum. Même critique de la part de Clément Mierassa, président du Parti social-démocrate congolais, qui parle, lui, de coup d'État constitutionnel. Au Burundi, 8 personnes ont été tuées ce week-end dans des affrontements entre la police et des opposants au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. D'autres sources parlent même de 15 morts. Pourquoi ce regain de violence? La réponse d'Innocent Muhozi, directeur général de la radio-télévision Renaissance au Burundi.
La violence que nous avons été témoins ce week-end n'est pas surprenante. Elle fait partie d'un processus d'aggravation de la crise que vit le pays depuis plusieurs mois, où on voit des violences répétitives sans qu'il y ait la moindre enquête, sans qu'il y ait la moindre trace d'un État, d'un système judiciaire, d'un système policier pour protéger les gens. Et c'est devenu pratiquement une jungle où on voit des hommes en uniforme qui tuent des citoyens qu'ils sont censés protéger. Donc c'est vraiment une situation qui rend assez dégradant, puisque quand on voit en même temps la détermination que cette violence, cette absence de protection, cette absence de justice est en train de créer au sein de la jeunesse, au sein de la population, cela ne laisse présager rien de bon. Tout cela, c'est des éléments qui montrent que non seulement ce week-end, il y a une violence d'un autre niveau, mais qu'en plus, ça ira en se répétant ou en s'aggravant.
Les autorités du pays seraient aussi dans la panique.
Comment pouvez-vous gérer un pays? Comment pouvez-vous trouver des solutions aux problèmes d'un pays quand vous-même, vous êtes dans la panique la plus totale? Quand on voit tous ces ministres, tous ces officiers supérieurs de l'armée, de la police, les plus hautes autorités du pays, qui sont installés dans une peur constante d'être tués, puisque plus personne n'est à l'abri de la violence. Donc c'est vraiment une situation extrêmement grave. Le Burundi est au bord de l'explosion. Il faut qu'on le répète, qu'on le dise, qu'on le voit, qu'on se rende compte que tout le monde fasse le maximum pour éviter cette explosion-là. Ce qui est en train de se passer dans ce pays est extrêmement grave. Et encore une fois, quand on entend les propos du parti au pouvoir qu'on a entendu là, en termes de haine ethnique, de haine tout simplement contre tous ceux qui disent qu'il faut que les choses se passent autrement, c'est extrêmement inquiétant. Et je ne sais pas jusqu'où iront les éclats de cette explosion. Ce n'est pas une histoire de Hutu, ce n'est pas une histoire de Tutsi. Ce n'est pas un pouvoir de Hutu qui est menacé par des Tutsi. Ce n'est pas des Tutsi qui cherchent un pouvoir. Tout le monde est témoin aujourd'hui. Il y a une crainte à avoir qu'il ne faut pas laisser ces gens prédominer parce qu'ils sont extrêmement dangereux pour tout le pays et pour eux-mêmes.
Est-ce qu'en le faisant, ils prétendent se tirer d'affaires?
C'est une illusion, oui, parce que vous savez, c'est le bon vieux schéma où les gens se disent on utilise la question, ça devient un conflit ethnique, là on peut s'en sortir, parce que ça deviendrait une histoire de minorité contre majorité, mais tout le monde sait que ça n'a plus rien à voir avec cela.
Ça pourra faire des victimes quand même.
Mais ça le fait déjà, ça fait déjà beaucoup de victimes, il y a déjà trop de morts, il y a trop de prisonniers, il y a trop de Burundais en exil, alors que les gens se connaissent, on pourrait discuter de tout ce qui est un problème, chacun pourrait trouver sa place, pourquoi cette folie-là?
Innocent Muhozi, directeur général de la radio-télévision burundaise Renaissance, joint à Kigali par Eric Manira Kiza. Et pour terminer, ici aux États-Unis, le ministère américain de la Justice et 5 États du pays viennent de finaliser un accord de montant de 20 milliards 800 millions de dollars pour régler les réclamations contre BP, British Petroleum, pour le déversement en 2010 de plus de 3 millions de barils de brut de la plateforme Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.